RMC, face aux grandes gueules.
On va revenir sur l'affaire Epstein avec Frédéric Ploquin, notre confrère spécialisé dans les affaires de police-justice et du grand banditisme. Epstein, les secrets de la filière française, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Je voudrais vous faire écouter quelqu'un, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sonores concernant l'affaire Epstein, sauf une personne qui s'est exprimée très récemment, c'est Daniel Ciad. Voilà, celui que l'on présentait comme étant l'un des fournisseurs de jeunes filles à Epstein quand il venait à Paris, auprès aussi de l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Voilà ce qu'il disait.
Mes relations avec M. Epstein étaient strictement professionnelles. Quand il venait à Paris, quelquefois, j'organisais des castings, justement, pour Victoria's Secret.
Donc, combien de jeunes femmes vous lui avez présentées?
Je pense que pas plus d'une dizaine, de 10 à 15 de mannequins, des Françaises et des étrangères.
Donc, ce qui s'est passé dans l'appartement et ce qui est décrit par certaines jeunes femmes,
oui.
Vous n'avez pas vu?
Jamais. Jamais ça s'est passé quelque chose avec moi, ma présence.
Là, j'ai envie de dire, c'est le volet français qui vous a intéressé, Frédéric. D'ailleurs, il y a une instruction toujours en cours, même si, paradoxalement, les personnes impliquées sont mortes. Rappelons que Epstein est mort en prison, mais Jean-Luc Brunel également, puisqu'il s'est suicidé en détention en 2022.
Exact.
Donc, cette enquête, c'est pour dire quoi? C'est pour mener vers où?
Bah, écoutez, moi, d'habitude, je traque effectivement d'autres sortes de criminels. Je m'intéresse aux trafiquants de drogue, je m'intéresse à toutes sortes aux voyous en général, aux braqueurs de bijouterie. Et quand j'ai découvert cette affaire, je me suis dit qu'il fallait mettre la force du journalisme d'investigation au service de ces victimes. Donc je me suis attelé à aller chercher tout ce qu'on pouvait, à lire tout ce qui pouvait se trouver dans les archives de la police et de la justice. Et là, j'ai compris que contrairement à ce qu'on essayait de nous faire croire, l'affaire, on va dire, Epstein-Brunel n'était pas strictement une affaire américaine, mais aussi une affaire bel et bien française. Et comme je suis journaliste depuis 40 ans, j'ai décidé d'essayer de raconter pourquoi et comment Paris, capitale de la mode, Paris rêve de toutes ces jeunes filles mannequins qui imaginaient tout en arrivant dans cette capitale vivre un conte de fées et qui se sont retrouvées véritablement dans la maison de l'horreur. Donc j'ai décidé
La maison de l'horreur, c'est ce fameux appartement.
La maison de l'horreur, c'est d'une manière générale tous les endroits où en fait ces prédateurs sexuels ont violé leurs victimes. Donc j'ai décidé de raconter ce berceau, on va dire le berceau du crime, et c'est pas Palm Beach en Floride, c'est pas New York, le berceau du crime du réseau pédocriminel international monté par Jeffrey Epstein, c'est Paris. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien qu'il avait acheté cet appartement au 22 avenue Foch, particulièrement grand et
800
mètres carrés. Les policiers, je rappelle quand même, quand ils ont fait la perquisition, se sont perdus dans l'appartement et ont été obligés de s'appeler au talkie-walkie pour se retrouver. Donc vous imaginez comment les filles là-dedans pouvaient être égarées et comment ça a été compliqué pour certaines même d'en sortir et de retrouver la porte de sortie tout simplement. Donc en fait Paris c'était à la fois le réservoir en chair fraîche, on va dire entre guillemets, de ces prédateurs sexuels. C'était le mirage dans lequel tombaient toutes les victimes. Et tout cela n'a pas commencé récemment. C'est ça que j'ai voulu montrer et raconter. Tout ça commence finalement pour moi dans le Paris des années 80 où il y a une grande liberté entre guillemets liée. C'est sur les années Mitterrand, les années de la fête de la musique, de Jack Lang, etc. Et dans les boîtes de nuit,
c'est les années où les top modèles deviennent des mégastars aussi.
Exactement. C'est
dans
ce moment-là.
Elles sont dans les clips, on les voit partout, elles sont très valorisées.
Absolument. Et j'ai approché des gens qui animaient à l'époque la nuit parisienne. Et en fait, c'est là-dessus que je fais démarrer cette grande dérive. C'est que dans les boîtes de nuit parisiennes, au bain-douche ou ailleurs, dans ces années-là, ces années 80, on avait un certain nombre de patrons d'agences de mannequins, ils étaient au moins 3 ou 4, qui étaient les rois de leur milieu, qui faisait rentrer les filles gratuitement, qui s'entourait, donc il y avait des grandes tablées où ces patrons étaient entourés d'une dizaine, parfois d'une quinzaine de jeunes filles, très jeune, qui il y avait de la cocaïne sur les tables, et la liberté ne s'arrêtait pas là. Ouais. Bon, la liberté s'arrêtait jusqu'au fait
mais est-ce que c'était un réseau
que ces hommes abusaient, voulaient abuser, c'était ça l'idée, abuser de ces jeunes filles, et celles qui ne voulaient pas, disons accepter le jeu, le deal, tu vas te retrouver à la une des journaux, mais d'abord il faut coucher. Celles qui refusaient se retrouvaient parfois avec une petite pilule dans le verre, perdaient pas complètement connaissance, mais elles perdaient le contrôle d'elles-mêmes, elles se réveillaient brutalement dans la chambre d'un de ces patrons.
Est-ce que c'était un réseau pédocriminel ou un réseau de prostitution?
C'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à ces victimes, parce que personne ne les a entendues, personne ne les a écoutées pendant 20 ans, un peu comme si on se disait globalement dans ce milieu de la mode que bon, ok, tu veux devenir mannequin, bah écoute, ça fait partie du jeu, tu vas coucher, puis tu l'acceptes, puis d'ailleurs regarde comment tu te montres, et puis d'abord, donc il y a une espèce d'abus, de détournement total de l'objet, c'est-à-dire que vous savez quand ces patrons doivent choisir une femme, son profil, il y a une séance obligée, un passage obligé qui s'appelle le test photo. Le shooting, on va dire. Donc, on amène la jeune fille dans un appartement. On lui demande de retirer ses vêtements. Si elle n'enlève pas tout, on insiste un petit peu. On lui dit, écoute, nous, on a besoin de voir un petit peu toutes tes formes pour voir si tu vas pouvoir faire la une des journaux. Donc là, pour moi, c'est le début de l'emprise qui est mise sur ces femmes. On s'approprie leur corps à ce moment-là. On va pouvoir abuser de leur corps derrière dans un deuxième temps. Et je vais vous dire aussi un des trucs de cette emprise, c'est l'idée que souvent il y avait une volonté pour moi très nette de les fragiliser. On leur disait, écoute là, les hanches, les seins, il y a un petit peu de trop, etc. Et de les plonger dans une forme d'anorexie qui faisait partie du contrôle justement mental de ces filles, de leur demander de maigrir un petit peu en gros. Alors elles arrivaient à Paris, souvent de l'étranger, parlant pas la langue française, pas un sou en poche. Elles quémandaient même pour manger. Elles étaient contentes d'aller en boîte de nuit, évidemment, gratuitement. Et elles étaient, faut bien le dire, le profil, c'est ça, le profil de ces victimes, coupées de leur famille, seules à Paris, avec un rêve en tête et finalement très très jeunes.
De la naïveté aussi.
Probablement une forme de naïveté. Et ils ont joué là-dessus parce que ça compte énormément sur le fait qu'ils ne sont jamais tombés. Et qu'il y a eu cette construction d'une forme d'impunité. Ils se sont dit, jamais on nous atteindra, parce que ces femmes, une fois qu'elles ont été abusées, elles sont rentrées chez elles, que ce soit dans la campagne en France, parce qu'elles ne venaient pas toutes de l'étranger, ou dans leur pays d'origine. Et là, elles se sont senties toutes, elles ont toutes culpabilisées. C'est-à-dire, toutes ont été marquées, frappées par la même, disent la même chose. C'est en gros, on s'est senti coupable, on s'est fait avoir, on s'est fait rouler, donc on a été naïf. Et donc on ne parle pas.
Donc on a honte.
La question, c'est pourquoi elles s'en vont pas, en fait? Pourquoi elles restent? Parce que.
Écoutez, c'est pour ça que j'ai parlé de l'emprise. Ouais. Elles sont effectivement sous emprise. Bah, c'est un mécanisme très difficile à expliquer. J'ai essayé de.
Non, mais il n'y a pas de relation amoureuse. Alors, c'est quoi? C'est l'emprise parce que.
La peur?
C'est une emprise sous toutes les formes. Il y a celles dont on ne touche pas le corps tout de suite, mais on commence par leur donner Jeffrey Epstein, comme Jean-Luc Brunel. C'était le même système. On leur donne une carte bleue. Allez, va faire des courses, va t'acheter ceci, cela. Ouais. Et elles croient à leur rêve. Elles veulent y croire. Il y a un moment donné, et c'est vrai que ça peut surprendre, effectivement, quand on n'est pas de ce monde, mais il y a des jeunes filles qui vont rester, entre guillemets, esclaves sexuelles. Alors qu'elles ont, elles savent très bien que, en espérant, je ne sais quoi, on a l'impression qu'elles sont tombées.
C'est de la prostitution?
Pour 99% des cas, justement, c'est pas de la admise, acceptée. C'est vraiment l'emprise totale. Il y a un seul cas sur les 30 cas que je décris, que je raconte, il y a juste le cas d'une femme. Dont on peut considérer qu'effectivement elle a accepté un logement, etc., en échange de services.
Il y a quand même quatre femmes qui sont des victimes de d'Epstein qui se plaignent de votre livre parce que elles parlent de violation de la vie privée puisque vous racontez ce qu'elles ont subi. Vous avez eu accès à des PV d'audition, leur prénom est donné, le détail des violences sexuelles subies. Voilà.
Effectivement.
Vous répondez à ces quatre hommes. Il y a même une avocate qui veut porter plainte, qui représente ces quatre victimes.
Bon, cette avocate, effectivement, moi je l'ai appelée au début de mon enquête. Bon, il y avait deux possibilités. Soit, comme journaliste dans l'investigation, vous retournez voir les victimes et vous leur dites re-racontez, revivez avec moi. Donc vous allez partout où elles habitent aujourd'hui, etc. 20 ans après les faits, vous allez les voir et vous leur demandez de raconter les faits tels qu'elles pourraient les raconter aujourd'hui. Soit, et c'est le choix que nous avons fait avec l'éditeur, en fait, j'ai voulu utiliser et montrer et exposer la matière brute, c'est-à-dire ce que les policiers eux-mêmes, et non un journaliste d'investigation qui a les moyens qu'il a, qui n'est pas forcément capable de déterminer le vrai du faux. Vous en parliez tout à l'heure à propos de l'affaire Bruel. Vous vous retrouvez face à une victime, vous êtes dans l'émotion totale. Là, ce qui importait pour moi, c'était de faire revivre un dossier, donc des témoignages recueillis par des policiers spécialisés qui donc ont pris soin de même peut-être de bousculer ce que moi j'aurais jamais osé faire ces victimes pour être sûr que ça soit passé comme ci, comme ça, etc. Donc en fait c'est un dossier, l'affaire Epstein, où il y a tellement de désinformation, tellement de fake news, tellement de fantasmes que moi je me suis dit, comme journaliste d'investigation, je pouvais pas me permettre ça, et donc c'est un retour aux faits brut. Et par ailleurs, effectivement, bon, il y a aucune identité qui est donnée des jeunes filles, aucun nom. Il y a deux prénoms, uniquement les prénoms de jeunes femmes qui se sont exprimées dans leurs propres médias, dans leur propre pays, qui se sont exprimées à la télévision, qui ont même fait des livres et qui ont déjà tout raconté. Sinon, voilà, donc...
Briser l'omerta.
Alors, et voilà, l'idée, c'était de briser l'omerta.
Emmanuel Zora, Abel.
Moi, je dirais que dans votre livre, vous égrayez une foultitude de faits divers, tous plus lamentables les uns que les autres. Je reprends le mot à l'instant d'Alain Marshall qui dit il y a beaucoup de fantasmes par rapport à cette affaire internationale Epstein. Et il n'y a pas que du grandiose, parce que quand vous révélez que Epstein lui-même, à la gare Montparnasse,
ça, bravo d'avoir vu ce détail,
aborde une jeune fille pour essayer de l'emmener chez lui avec des propositions malhonnêtes, on est loin du grandiose des Bahamas ou du jet. Hein.
Bah, je vous remercie d'avoir relevé ce détail, parce que moi ça m'a énormément frappé, c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. C'est que vous imaginez, ce Jeffrey Epstein, il est tellement à cran, tellement à court, il a tellement besoin qu'il va lui-même, là c'est même plus les rabatteurs comme celui qu'on a écouté tout à l'heure, c'est même plus Jean-Luc Brunel, son principal poisson pilote, c'est lui-même qui va gare Montparnasse, qui aborde une jeune fille parce qu'elle lui plaît, qui lui dit je vais porter tes valises, il fait un peu chaud, tu vas où, etc. Moi je peux t'aider, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le rat du bitume, on va dire.
Le mec qui est accro, quoi, en fait.
Complètement.
Moi je dirais, parce que c'est un sujet qui m'invite à une grande sobriété, parce que je trouve ça tellement, tellement lamentable. C'est un milieu malsain avec aussi beaucoup de mythomanie.
C'est pour ça que moi je m'en suis tenu vraiment strictement au fait, précisément pour ça, pour pas, parce que c'est trop fragile, c'est trop volatile, il y a trop d'exploitation, et donc si on s'en tient strictement à ce que des policiers professionnels ont récolté, là on est bon. Et moi je me suis dit, ces jeunes femmes ont été privées de procès par le suicide de Jean-Luc Brunel, qui n'est que là conséquence, à mon avis, de la mort de Jeffrey Epstein dans sa cellule de prison aux États-Unis. C'est une espèce de suicide par ricochet. Donc, je ne sais pas comment Jeffrey Epstein est mort, s'il s'est vraiment suicidé ou pas. Toujours est-il que son poisson pilote français, son bras droit français, lui, Jean-Luc Brunel, s'est bel et bien suicidé dans le quartier VIP de la santé. Je commence le livre avec cela. Et au moment de se suicider, c'est ça qui m'a motivé pour faire ce livre, il prive ces jeunes femmes d'un procès aux assises, où elles auraient précisément pu exposer et dire au public ce qui avait été fait par ces hommes.
Ce qui est frappant, c'est que vous dites que ça part des années 80, donc c'était quand même assez ancien, et que c'est un système qui était tellement bien organisé autour de l'emprise des jeunes filles, un espèce d'esclavage moderne sur fond de contes de fées promis qui n'arrivent jamais, finalement, c'est plutôt l'enfer. Mais quand même, outre la pathologie de ces ordures, parce que c'est comme ça que je les appelle.
Oui, c'est une clique ordurière, on est d'accord, voilà, c'est comme ça que je les prétends.
Outre la pathologie de ces ordures, il y a quand même un énorme système de complicité, mais incroyable. C'est obligatoire. Une histoire ne peut pas durer autant de temps avec une ramification aussi importante s'il n'y a pas énormément de gens qui se taisent, qui disent rien, qui voient, etc. Parce que
qui sont les complices alors?
Voilà,
qui sont les complices? Est-ce qu'il y a des personnalités? Est-ce qu'à Paris, il a été protégé politiquement?
Mais c'est aussi pour ça que je fais ce livre, je révèle ces témoignages. C'est pour que toutes ces personnes qui les ont protégés et couverts réalisent ce qui s'est vraiment passé. Donc il y a au moins deux types de personnes. Il y a d'abord le milieu de la mode. Qui tient à son jouet. Paris, capitale de la mode, ça rapporte énormément d'argent. On couvre tout, on couvre ces petits roitelets, ces petits princes de la mode, etc., qui découvrent, entre guillemets, des talents. Donc il y a d'abord le milieu de la mode. Et autour, il y a tous ceux... Parce qu'en fait, le système Epstein-Brunel, c'est aussi des dizaines et des dizaines de personnes qui vont être plus ou moins compromises, on va dire. C'est un système de compromission générale entre ceux qui ont profité des jeunes filles directement et ceux qui étaient là, pas très loin, et qui au moins profitaient de leur présence d'une manière ou d'une autre et qui n'ont jamais rien dit. Et quand j'entends notre témoin tout à l'heure dire « Moi, j'ai rien vu, je savais pas, etc. » Je me contentais...
Je vous donne un exemple. J'arrivais quelque part, il y a une hôtesse d'accueil. Je sais pas, elle est là, elle bosse, c'est son boulot. Elle est hôtesse d'accueil. Même si elle a rien à voir avec le elle sait, elle voit, elle connaît. Et l'hôtesse d'accueil, c'est-à-dire de l'employé qui ouvre la porte jusqu'à l'hôtesse d'accueil.
Les majordomes...
Mais pourquoi ces gens ne parlent jamais?
Bon, mais il y a des noms qui ont été cités de personnalités. Jack Lang.
Jack Lang, lui, c'est plus parce que il y a une double. Il faut savoir qu'on a affaire à des criminels, à des délinquants sexuels, mais aussi à travers Jeffrey Epstein, à de grands escrocs et à des délinquants financiers. Donc le volet Lang, a priori, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est plutôt un volet strictement financier. Et donc il s'agit de financer notamment des projets à la gloire de ces personnes, etc.
Il y a beaucoup de noms de personnalités qui ont été cités, françaises ou américaines, mais si je comprends bien, Jeffrey Epstein, c'était pas quelqu'un qui organisait en gros des partous avec des jeunes filles et plein de personnalités qui venaient. Déjà, c'était pour sa propre consommation,
absolument, entre guillemets, absolument.
Ou celle de quelques-uns de ses proches, comme le prince Andrew.
Oui, mais...
Il s'est pris en photo avec beaucoup de monde. Alors, avec tous les gens qui sont sur les photos, on doit les incriminer.
Et bien justement, réponse de Frédéric Ploquin dans un instant. Il reste avec nous. Epstein, les secrets de la filière française, édition du Nouveau Monde. Encore des questions à lui poser à propos de ce dossier. Abel Boyer aussi veut en parler. Restez avec les GG. À tout de suite. Il est 11h.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Frédéric Ploquin est avec nous. Frédéric Ploquin avec ce livre sur l'affaire Epstein. Epstein, les secrets de la filière française, aux éditions de Nouveau Monde. Parce que ce que dit Frédéric, c'est que l'affaire Epstein, on a beaucoup focalisé sur les États-Unis, mais que finalement, c'est peut-être même essentiellement une affaire française. Et là, on était juste avant sur les personnalités qui ont peut-être couvert Epstein.
Et tous ces noms qui sont cités, des comédiens.
À Paris, qu'en est-il vraiment alors?
Jeffrey Epstein, non seulement... fréquentait effectivement les plus grands, les puissants de ce monde, que ce soit des membres des services des renseignements, des chefs, des responsables, des hauts responsables politiques, en faisant attention à chaque fois d'être dans les deux camps. Aux États-Unis, il avait autant d'amis démocrates que d'amis républicains. En France, il essayait de... Comment ça servait ses affaires? C'est quelqu'un qui aimait s'entourer d'hommes puissants. Et alors le plus frappant, c'est qu'il ne le cachait pas, il l'affichait. Et donc quand vous visitez, quand les policiers ont visité son appartement du 22 avenue Foch, c'était sa plateforme parisienne, là où il aurait peut-être pris un jour sa retraite, je sais pas. En tout cas, quand ils l'ont visité, il y a plusieurs choses qui les ont frappés. C'est que d'abord, il y avait des photos de jeunes filles, de très jeunes filles, absolument partout, dans tous les placards, dans toutes les salles de bain, dans tous les...
Même au mur, hein.
Y compris...
C'était pas caché, hein, c'était sur les murs.
Pas caché, c'était absolument partout, et notamment dans cette fameuse salle de massage qui était vraiment le lieu du crime.
C'était
pour lui.
Le sien, c'était sa salle, quoi.
C'était sa salle de massage, hein, je pense qu'il la partageait pas et c'était son obsession, quoi. En gros, c'était le viol dans le cadre de pseudo-massage. Mais dans cet appartement, il y a ça. Il y a une décoration qui est assez étonnante d'un point de vue psychologique et qui en dit long sur le bonhomme, c'est que il y a essentiellement des références au monde animal. Il y a des espèces de carapaces, des têtes, des ossements, des choses. Il y a énormément de peaux de léopard, enfin des choses qui sont très animales. Et troisièmement, il y a effectivement quasiment dès le vestibule des photos, une multitude de photos de Jeffrey Epstein avec des personnalités. Alors il est avec effectivement avec Woody Allen et Roman Polanski par exemple. Il est avec Donald Trump jeune. Il est avec un certain nombre de hauts responsables, notamment des services de renseignement, que ce soit côté israélien que côté arabe. Donc comme si il voulait montrer à tout le monde, parce que là on peut pas l'ignorer quand on rentre chez lui. On voit tous ces visages, on voit tous ces personnages. On se dit, le visiteur se dit, oh là, on est chez un homme très 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 puissant, intouchable probablement. Et c'est, je crois que c'est ça le message qu'il envoie par cette décoration, c'est je suis puissant, je suis intouchable, je suis au-dessus de vous, de tous, et je fais ce que je veux.
Ouais, c'est ça. Abel Bouhi.
Ce qui m'a plu dans le livre, bon, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un fan absolu de votre travail de toute façon. Il y a quand même plusieurs fils conducteurs qui sont disséqués en parallèle. Il y a le parcours de Brunel, où il y a quand même des fréquentations sulfureuses bien avant Mitterrand. Vous parlez de Claude François et de David Hamilton.
Exactement.
Giscard qui ferme les yeux sur certaines choses. Je laisse les gens lire le livre. Woody Allen, Roman Polanski. En 88, il y a ce documentaire aux États-Unis, American Models in Paris, où déjà plusieurs top modèles se plaignent d'agressions sexuelles et de viols, avec Brunel qui est au centre névralgique de la chose. Il y a Epstein et Ghislaine Maxwell, dont vous précisez, ce qui est intéressant psychologiquement, Ghislaine Maxwell qui ne correspond pas du tout aux critères de beauté, ni de Epstein, ni de Brunel, et c'est elle qui devient un petit peu la rabatteuse aussi, le centre névralgique de cette chose. Moi, j'ai plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on s'est plus intéressé à ce qui se passait en France qu'en France même? Parce que pour moi, on a fait un focus sur Jacques Lang, ça c'était de l'enfumage pour moi. Et surtout, on a fait comme si on découvrait l'histoire. Aux États-Unis, ils ont beaucoup cherché à savoir ce qui se passait au niveau français, parce que Epstein, il passait 6 mois quand même à Paris. Et ma deuxième question, c'est, il y a le fil conducteur de la police judiciaire, où on voit qu'à toutes les époques, la police judiciaire découvre énormément de choses, et on a l'impression qu'elle est freinée. Voilà, donc est-ce qu'elle a été freinée par le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire? Donc voilà, parce que la police judiciaire est au courant de tout, quasiment dès le début à chaque fois.
C'est vrai que ça, c'est assez, c'est un de mes fils conducteurs, c'est-à-dire comment pendant 30 ans ces personnes ont pu sévir sans qu'il se passe rien. Comment on a pu avoir ces documentaires anglo-saxons qui pointait du doigt Jean-Luc Brunel et qui disait, regardez, avec des personnes, des jeunes femmes qui témoignaient masquées et qui racontaient comment elles avaient été victimes de viols par soumission chimique. À aucun moment, effectivement, ni le parquet de Paris, ni personne ne s'est soucié de quoi que ce soit. Personne n'a porté plainte.
Il y
avait
une protection politique ou pas? Est-ce qu'il y avait des consignes, vous ne touchez pas à Brunel?
Je pense que c'est une espèce d'auto-contrôle, d'auto-censure globale. Je ne sais pas si j'ai pas réussi à démontrer qu'il y ait un homme politique qui, à un moment donné, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que personne ne bouge, personne n'ose bouger. On a des hommes puissants en face. Et vous disiez que effectivement les Américains se sont plus intéressés à ce qui s'est passé en France que nous-mêmes. Mais il y a une raison simple, c'est que ça les empêchait peut-être, ça leur évitait peut-être de s'intéresser davantage à ce qui se passait aux États-Unis. Donc chacun va chercher chez l'autre ce qu'il cherche. Et là, aujourd'hui, ce qu'on constate dans cette enquête criminelle, quand même, c'est que au moment où la justice française a cherché auprès de l'aide, on va dire auprès de la justice américaine, au moment où on a fait ces demandes d'entraide judiciaire internationale, le FBI a littéralement fermé le couvercle et n'a pas coopéré.
Mais elle est finie l'affaire Brunel ou pas? L'affaire Epstein. Est-ce qu'elle est terminée? Parce que on continue de lire, ça intéresse. Comme
il y a une
vous
enquête
disiez,
encore en cours.
Ça fait fantasmer. Il y a une enquête en cours, mais est-ce que ça va aller loin finalement ou pas, Frédéric?
Justement, au moment où nous on décide,
que les protagonistes sont morts.
Au moment où on fait ce livre, on décide de faire ce livre. L'enquête était terminée. Était précisément les procès-verbaux étaient oubliés. Était sous le boisseau, tout avait été dissimulé et caché, et c'est la raison pour laquelle on a décidé donc de mettre les pieds dans le plat et d'aller tout chercher, de tout dévoiler. Aujourd'hui, sous la pression, et parce qu'il s'est, à cause des informations en provenance des États-Unis, la justice française a décidé, le parquet a décidé de ressusciter ce dossier, et donc de faire d'une certaine manière, peut-être, en tout cas, espérer aux victimes qu'un jour, pourquoi pas, il y aurait un procès. Mais ça, c'est nouveau, ça vient de se décider. Et donc, il y a eu l'ouverture, il y a quelques jours, à Paris, d'une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de juge d'instruction, qu'il n'y a pas de service de police qui est saisi, que les juges ont décidé d'enquêter et vont probablement essayer de rechercher tous les témoins qui sont cités, notamment dans ce livre, et qui n'ont jamais parlé jusqu'à présent.
Et l'appartement Avenue Foch, il est sous scellé, il a été racheté. Qu'est-ce qu'on sait de ces 800 mètres carrés, 22 Avenue Foch alors?
Alain voudrait faire une offre.
Non, mais Jeffrey Epstein dans sa toute puissance, a tout organisé, tout prévu. Il avait organisé son héritage, il avait organisé la distribution de sa fortune colossale. Il a organisé la suite, si vous voulez, l'achat du silence en redistribuant. Il avait une armée d'avocats autour de lui. Et quand il est mort, rien ne s'est arrêté. Tout a continué pratiquement normalement.
Donc le système perdure aujourd'hui.
Le système a perduré pour gérer en tout cas les biens, distribuer de l'argent à ceux qui pouvaient parler probablement aussi, notamment à Ghislaine Maxwell, qui est l'autre Française
qui
du dossier.
En prison, elle.
Et l'ancienne épouse, je le rappelle quand même, cette Française, franco-américaine, on va dire, qui dispose d'un passeport français, qui est francophone, qui est française et qui a introduit Jean-Luc Brunel auprès de Jeffrey Epstein. C'est important, ce volet français, à double titre. Le bras droit et le bras gauche de Jeffrey Epstein étaient français. Elle est aujourd'hui en prison aux États-Unis. A priori, elle n'est pas trop bousculée dans sa cellule, mais elle possède elle a la possibilité, ouais, si elle le voulait, de tout faire exploser. Donc c'est pas fini.
Ouais. Et
il y a encore dans les placards.
C'est secret encore. Elle.
Il y a encore dans les placards. Il va peut-être falloir attendre la fin du mandat de Donald Trump pour en savoir plus.
Merci Frédéric Ploquin. Epstein, les secrets de la filière française. On vous le conseille. Lisez-le, c'est aux éditions du Nouveau Monde pour tout comprendre de ce qui se passait en France. Et c'est vrai qu'on revit une époque, comme vous le disiez, celle des années 80, celle des top modèles, ce qui se passait au bain-douche, ce qui se passait au palace aussi, vous le racontez. Merci Frédéric d'être passé par les GG, par les grandes gueules.